Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle dans le cadre de notre chronique Vive la Commune, chaque semaine jusque fin mai à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, cinquième opus et nous nous intéressons à l'œuvre de la Commune de Paris dans le domaine éducatif et donc notamment concernant les questions scolaires. Pour cette émission, nous nous sommes appuyés sur les sources suivantes. Premièrement, le hors-série de Politis intitulé La Commune, une histoire en commun, publié à l'occasion des 150 ans de la Commune, et particulièrement sur un article de Jean-Louis Robert, historien, qui publie une nouvelle histoire de la Commune en trois volumes aux éditions Le Temps des Cerises, ainsi que sur un article de Laurence Decocq, chercheuse en sciences de l'éducation, qui a publié sur l'enseignement de l'histoire aux éditions Libertalia. Nous nous appuyons également sur deux articles de Jean-François Duperron, l'un dans la revue Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire, l'autre dans Alternatives libertaires. Jean-François Duperron est l'auteur de « À l'école de la Commune de Paris » aux éditions Raison et Passion. Enfin, nous nous appuyons sur le livre « La Commune au jour le jour ». Ce livre est la compilation des textes officiels de la Commune de Paris, textes rassemblés par Patrick Le Tréhonda et Christian Mailleux. C'est aux éditions Sileps. Tout d'abord, concernant notre thématique, l'éducation, l'école, sous la Commune, quelques éléments de contexte. Au moment de la Commune, en 1871, quelle est la réalité scolaire?
Il faut souligner que depuis 1850, l'enseignement primaire était régi par la loi Falloux, qui obligeait les communes, à partir d'un certain seuil, à avoir une école. Cependant, l'enseignement n'y était ni gratuit ni obligatoire, et l'absentéisme restait important dans les quartiers populaires. La loi prévoyait en outre que, si une municipalité mettait en place une école publique, elle pouvait avoir des institutions laïques ou congréganistes, ces derniers étant plus souvent destinés aux écoles de filles. Mais, dans tous les cas, on devait enseigner la religion et tout le programme était contrôlé par l'Église catholique. À la fin du Second Empire, se développe l'exigence d'une école publique exclusivement laïque. C'est dans cette optique qu'est créée en 1866 la Ligue de l'enseignement.
Et au moment de la Commune, et plus largement au XIXe siècle, quelle approche des questions scolaires au sein du mouvement ouvrier?
Il existe un important fonds pédagogique construit par le mouvement ouvrier et les divers socialismes au XIXe siècle, avec des cours du soir, un accès à l'instruction, un perfectionnement professionnel, le tout en revendiquant une éducation nouvelle et universelle. Les conceptions scolaires socialistes se distinguent des approches philanthropiques et libérales par le lien établi entre la question de l'éducation et le projet de reconstruction révolutionnaire de la société sur la base de l'émancipation du travail. Pour Marx, il fallait, dit-il, un système d'instruction déjà nouveau pour pouvoir changer les conditions sociales. Là était l'opposition irréductible entre une éducation républicaine d'ordre, c'est-à-dire liée à la préservation sociale et au modelage moral des plébéiens, et une éducation républicaine socialiste, c'est-à-dire animée par l'émancipation populaire et finalisée par un changement de société. Ainsi, en plus de traits scolaires proprement républicains, c'est-à-dire l'accès universel à l'instruction, la gratuité de celle-ci et la mise en œuvre d'un enseignement laïque, trois éléments spécifiquement socialistes apportent une grande originalité à la pensée ouvrière en matière d'éducation. Tout d'abord l'éducation intégrale, puis l'école-atelier et enfin la méthode syndicale. Ces éléments convergeaient dans l'idée que le travail, et non le savoir, devait tenir le premier rôle dans les plans éducatifs.
On va revenir sur les trois éléments qui viennent d'être cités. Tout d'abord, l'éducation intégrale, de quoi s'agit-il?
Pour Paul Robin, pédagogue et ami de Bakounine, qui rédigea un rapport sur l'enseignement en 1870 pour la section parisienne de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, il faut proposer une même éducation aux filles et aux garçons, sans hiérarchiser les formes de savoir, sans exclure de l'école le travail manuel et la formation professionnelle.
On peut dire que cet élément, l'éducation intégrale, constituera le principal marqueur socialiste du programme scolaire de la Commune, conforme aux besoins populaires et à l'idée d'une société reconstruite autour du travail, car débarrassée du capital. L'éducation intégrale, c'est aussi la diffusion par l'école d'éléments jusque-là réservés aux riches. Par exemple, la culture du corps et la pratique des exercices physiques, ou l'entrée de l'art et de l'artiste à l'école, comme le propose le manifeste de la Fédération des artistes, animé par le peintre révolutionnaire Gustave Courbet. Il faut prendre le contre-pied de la société bourgeoise, qui ne concède aux prolétaires qu'une éducation fragmentaire pour mieux les enchaîner à un travail divisé. Il faut, comme l'écrit un journal communard, que l'éducation soit professionnelle et intégrale, qu'un manieur d'outils puisse écrire un livre, l'écrire avec passion, avec talent, sans pour cela se croire obligé d'abandonner l'étau ou l'établi. Le deuxième élément que nous avons évoqué tout à l'heure et qui a inspiré la commune, c'est l'école-atelier.
Le concept d'école-atelier concrétisait l'articulation entre le travail productif et l'instruction scolaire. Tout comme l'ouvrier ne pouvait pas apprendre sans faire, l'enfant ne pouvait apprendre qu'en agissant et en travaillant. D'où une pédagogie du travail. Le travail étant à la fois l'activité centrale de la société et l'activité par laquelle l'individu se réalise, était au cœur des modèles pédagogiques et éducatifs. Dans l'école-atelier, le clivage entre formation intellectuelle et formation professionnelle disparaissait, de même que la césure chronologique entre deux étapes distinctes, d'abord le scolaire, puis le professionnel. L'école-atelier devait réaliser une fusion apte à réhabiliter le travail manuel et productif, à désaliéner l'individu et à éviter une spécialisation professionnelle potentiellement dangereuse en cas de chômage.
Ainsi, en appui sur le concept d'école-atelier, la commune souhaite même permettre aux travailleurs de participer à l'enseignement. Le modèle classique de l'enseignant défini avant tout par son instruction scolaire doit cohabiter avec une intervention directe des ouvriers, des artistes, des gymnastes, etc. La commission de l'organisation de l'enseignement, au moment d'ouvrir l'école professionnelle pour garçons, invite les ouvriers qui voudraient être maîtres d'apprentissage dans l'école à adresser leurs demandes à la délégation du travail et de l'échange. Cette école-atelier, dans laquelle les enfants seraient initiés à certains métiers, avait pour modèle l'école polytechnique dont parlait l'AIT, rapprochement entre les organisations de travailleurs et l'école, visée pragmatique d'amélioration de la formation initiale des travailleurs, émancipation des travailleurs par le contrôle de l'action éducative, transmission à l'école d'une culture et d'une morale du travail afin d'extirper des consciences enfantines les discours des dominants. Et le troisième élément dont s'est inspirée la commune, c'est la méthode syndicale.
Le troisième élément spécifiquement socialiste fut l'utilisation de la méthode syndicale, signifiant la volonté de bâtir la nouvelle école républicaine et socialiste en lien avec le mouvement ouvrier, les initiatives corporatives et les chambres syndicales, ainsi qu'avec le mouvement social, les enseignants, les associations républicaines et socialistes, les parents et la population au niveau local. Comme l'émancipation des travailleurs ne saurait être que leur propre œuvre, ceux-ci devaient se saisir de l'éducation au même titre que de la production, de la consommation, de la propriété collective, du secteur bancaire et des services communs. La réforme scolaire de la commune s'inscrit ainsi dans un projet global d'auto-émancipation à distance de l'État et de l'Église.
Ainsi, avec l'éducation intégrale, avec l'école-atelier et avec la méthode syndicale, la commune s'aligne sur les principes du mouvement ouvrier socialiste. Le délégué à l'enseignement de la commune, c'est Édouard Vaillant, pour qui la réforme doit assurer à chacun la véritable base de l'égalité sociale, affirmant ainsi le caractère essentiellement socialiste de la Révolution.
Cette école nouvelle et égalitaire s'appuie sur un triptyque célèbre, école laïque, gratuite et obligatoire. L'instruction religieuse doit être radicalement supprimée des écoles publiques. Aucun signe religieux ne doit être présent dans les écoles publiques. Enfin, les congrégations doivent être chassées de ces écoles où ne doivent plus enseigner que des laïcs.
C'est ainsi que le 2 avril, la Société pour l'éducation nouvelle présente un projet aux élus de la commune qu'il accepte. Ce projet acte la séparation de l'Église et de l'État. Extrait du journal officiel de la commune en date du 2 avril.
Les sous-signés délégués de la société L'Éducation Nouvelle demandent d'urgence, au nom de la liberté de conscience, au nom de la justice, Premièrement, que l'instruction religieuse ou dogmatique soit laissée tout entière à l'initiative et à la direction libre des familles, et qu'elle soit immédiatement et radicalement supprimée pour les deux sexes dans toutes les écoles, dans tous les établissements dont les frais sont payés par l'impôt. Deuxièmement, que ces maisons d'instruction et d'éducation ne contiennent aux places exposées au regard des élèves ou du public aucun objet de culte, aucune image religieuse. Troisièmement, qu'il n'y soit enseigné ou pratiqué en commun ni prière, ni dogme, ni rien de ce qui est réservé à la conscience individuelle. Quatrièmement, qu'on n'y emploie exclusivement que la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l'observation des faits, quelle qu'en soit la nature, physique, moraux, intellectuelle. Cinquièmement, que toutes les questions du domaine religieux soit complètement supprimée dans tous les examens publics et principalement dans les examens pour brevet de capacité. Sixièmement, qu'enfin, les corporations enseignantes ne puissent plus exister que comme établissements privés ou libres.
On pointe ici la date. On est le 2 avril 1871, soit plus de 30 ans avant 1905, la date que l'on retient d'ordinaire concernant la séparation de l'Église et de l'État. Et puis, l'école doit aussi être gratuite et complète pour les enfants des deux sexes. Enfin, l'instruction doit être obligatoire en ce sens qu'elle devienne un droit à la portée de tout enfant, quelle que soit sa position sociale, et un devoir pour les parents ou pour la société. Par ailleurs, Édouard Vaillant fait adopter un décret, un des derniers de la commune, qui fixe l'égalité des salaires entre institutrices et instituteurs de Paris. Premier décret d'égalité salariale. 10 ans avant Jules Ferry, 35 ans avant la séparation de l'Église et de l'État, et 50 ans avant l'égalité officielle des salaires entre les femmes et les hommes dans l'éducation, la commune avait su être en avance sur son temps. Pause musicale maintenant, on écoute la canaille. Canaille était une insulte utilisée par les bourgeois pour désigner le peuple travailleur. Cette chanson retourne le stigmate. Créée pour le théâtre, elle devient une chanson politique jusqu'à être chantée lors des concerts mythiques de mai 1871, donnés en soutien aux familles des fédérés blessés. Une chanson interprétée par des militantes et militants de l'Union syndicale solidaire.
Dans la vieille cité française, existe une race de fer,
dont l'âme, comme une fournaise, a de son feu bronzé la chair.
Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis.
C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est la mère enfin qui travaille, les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'artiste, c'est la bohème, qui sans souper rime rêveur, assommé à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il la déshabille. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre à l'œil de hibou, au bras de fer à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'enfant que la destinée force à jeter ses haillons, quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Il faut donner la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que le trembleur ont dit depuis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille,
bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On nous verra dans la mitraille, en faisant dire aux ennemis, ça sent sauvage. Eh bien oui.
Nous sommes toujours sur Micro Rebelle avec cette chronique Vive la Commune. Aujourd'hui, nous avons évoqué l'œuvre de la Commune dans le domaine scolaire. Nous allons terminer cette émission en nous intéressant à notre époque et à propos de scolarité, aujourd'hui, au XXIe siècle, comment est enseignée la Commune dans nos écoles? Quelle place a la Commune dans les manuels scolaires?
Il faut attendre le début des années 2000 pour voir la Commune entrer en tant qu'événement politique singulier dans les programmes scolaires, mais du lycée seulement. Puis, en 2008, elle entre dans les programmes de collège en classe de 4e. Il s'agit d'apprendre aux élèves à caractériser des faits en les questionnant, en confrontant les sources, en tentant de rompre avec l'approche téléologique qui menait inexorablement à la fondation de la Troisième République. L'avancée est manifeste. Cependant, elle reproduit l'erreur initiale de délier la Commune de l'acte de naissance républicain. À nouveau, donc, la gestation dans le sang de la Troisième République est masquée. Il y a pourtant un véritable défi à tenir ensemble une approche historique de la Commune en tant qu'expérience politique inédite et sa répression comme accélérateur de la refondation républicaine. Car toute l'ambiguïté du modèle républicain se trouve aussi là, dans une continuité assumée avec des politiques émancipatrices et égalitaires, tout autant que dans la volonté d'effacer le péché originel qu'a constitué le massacre des communards. On le voit, l'enseignement de la Commune n'est pas encore au cœur des priorités. Pour cela, il faudrait que soient enfin assumées deux choses. Tout d'abord, que l'histoire scolaire soit mise au service d'un apprentissage de la critique et non de l'adhésion à des normes civiques considérées comme républicaines. Mais aussi que le récit linéaire accepte de s'interrompre pour laisser place à l'étude des expériences du possible, constitutives aussi du vivier mémoriel dans lequel nous sommes susceptibles de puiser.
Voilà, cette cinquième émission Vive la Commune se termine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un sixième opus. Dans l'attente, bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.